grand dialogue
Sigi Kafoba
et Dawani wa Makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Haloud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.
Cela fera bientôt un an que vous nous renouvelez tous les jours votre fidélité à nos programmes, au programme du Studio Tamani. Merci de cette marque de confiance. Nous sommes mercredi 2 juillet 2014. Bonsoir à vous et bienvenue. Votre grand dialogue vous parle aujourd'hui du Ramadan, de ses règles et de sa compatibilité avec la maladie. Les trois axes de cette émission, le Ramadan perd-il son sens? Les règles du Ramadan sont-elles connues de tous? Le Ramadan et la santé. Nos invités, Imam El Hadj Mamadou Diallo, professeur Akori Agiknan, nutritionniste, et Dantouma Koïta du syndicat national des commerçants détaillants. Merci messieurs pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé et Salim Douara est à la technique.
Studio Tamani.
Le Ramadan, 9e mois de l'année musulmane, a été décrété selon les érudits par le clément et miséricordieux Allah 2 ans après l'égir pour étendre encore sa clémence et sa grâce sur les fidèles, mais aussi absoudre leurs péchés. C'est un mois béni qui consacre le jeûne, une privation volontaire de nourriture et d'eau pendant la journée, comme une obligation exigée de tout musulman saint. Au-delà de l'obligation, la religion, les médecins expliquent que le jeûne ne convient pas à tous. Bien au-delà de la privation de nourriture et de boissons, le Ramadan incite les fidèles à se recueillir, à ressentir la spiritualité qu'inspire chaque jour de cette période très particulière. Selon le Saint-Coran, il faut jeûner avec son cœur, jeûner pour Dieu uniquement, jeûner avec sa langue, ses actes, ses paroles, son comportement. Le véritable jeûne réside dans la sincérité et se confirme par nos actions les plus nobles. C'est un mois où nos composantes sont multipliées et nos cœurs purifiés. Le meilleur profit à en tirer quant à l'accomplissement de nos bonnes œuvres réside dans ce mois. Alors aujourd'hui, est-ce que le Ramadan perd tout son sens de piété, Imam Diallo?
Merci de votre invitation. Je profite de votre micro pour féliciter les musulmans et leur souhaiter un agréable moment du Ramadan. Pour me permettre de répondre à votre question, il faut revenir sur le verset qui parle du jeûne. C'est-à-dire, Allah dit dans le Coran, ô vous qui portez la foi, le jeûne de Ramadan vous est prescrit, comme il a été prescrit à vos prédécesseurs, aux autres communautés. Et l'objectif cherché, la finalité, c'est pour que vous atteindrez la foi, la piété. Donc, l'objectif recherché en islam pour ce mois béni du Ramadan, c'est que le musulman puisse atteindre la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que sans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a tellement de tentations, donc le musulman n'arrive pas. Donc, c'est pourquoi le Ramadan est un moyen. C'est un mois au cours de laquelle, si vous voulez, c'est une école pour former les musulmans pendant 30 jours. Et pendant ces 30 jours-là, le musulman se prive de nourriture, de la boisson, de tout ce qui fait rupture à sa jeûne. Et il se donne à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un moyen. Après cette formation, le 11 mois qui arrive, le musulman sera prêt et affronter les difficultés de la vie sans commettre des péchés. Donc c'est un moyen pour nous, comme le verset l'indique, pour atteindre vraiment la piété. Et sans la piété, rien n'est possible.
Alors, professeur Akori Agiknan, vous êtes nutritionniste. Avant qu'on arrive à votre domaine, en tant que consommateur aujourd'hui, est-ce que vous comprenez les spéculations que l'on constate sur les marchés tous les ans?
Merci de m'avoir offert encore cette opportunité pour m'exprimer sur la relation entre le jeûne et la santé et quels sont les aspects bénéfiques pour l'individu. Pour répondre à votre question, je pense que il n'est pas du tout compréhensible dans un pays musulman, à forte consonance musulmane, je ne dirais pas il est entièrement musulman, mais en tout cas la dominante majeur, je ne veux pas donner de chiffres, mais en tout cas, pratiquement plus de 3/4 de notre population est musulmane, et que c'est ce mois qu'on choisit pour faire de la surenchère et priver une part assez importante de la population des possibilités ou des conditions favorables pour la rupture du jeûne. Je pense que ça, vraiment, c'est tout à fait déplorable. Et je pense que l'imam sera d'accord avec moi que ça ne fait pas partie des pratiques vraiment de l'islam. Au contraire, c'est en ce moment qu'on doit penser à son prochain, celui qui a un peu plus de moyens, faire en sorte que celui qui n'a pas les possibilités d'avoir une rupture décente, correcte, de lui venir en aide. Donc, vraiment, ce n'est pas le moment pour s'enrichir.
Alors, Dantouma Koïta, vous êtes du syndicat national des commerçants détaillants du Mali. Vous venez d'entendre un consommateur. Vous êtes concerné au premier degré. Est-ce que cette année, on a constaté des spéculations assez significatives sur le marché?
Ok, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Moi, c'est Elhadj Dantouma Koïta Dubois, secrétaire aux études et à la formation du syndicat national de commerçants détaillants du Mali. Nous sommes les détaillants. Les détaillants, c'est ceux qui vendent dans les boutiques et puis sur les tables. La plupart, c'est les grossistes qui envoient des marchandises de l'extérieur. Les détaillants, quand ils achètent avec les grossistes, en tenant compte du prix d'achat qu'ils revendent. Bon, je crois que je ne peux pas parler des années antérieures, mais cette année, sur le prix du sucre, du lait, de l'huile, il n'y a pas de spéculation. Et tout dernièrement, plus tard qu'hier, le gouvernement s'est impliqué pour qu'il puisse avoir une réduction d'une augmentation de 200% sur le prix de la viande. Bon, comme l'imam et puis le directeur vient de le dire, je crois que les commerçants au Mali, c'est une chance. Tous les commerçants sont des Maliens à 95% aussi, par rapport à d'autres pays du monde, à d'autres pays de la sous-région. Ça veut dire que ça doit être un mois où on doit avoir pitié l'un en l'autre. Mais je pense que souvent, c'est les périodes. Quand la radio vient de parler de la pomme de terre tout de suite, avant de rentrer dans le fond, la pomme de terre se vend ici à 150 francs le kilo au mois d'octobre, novembre. Et actuellement, il n'y a plus de pomme de terre au Mali, peut-être, sauf ce qui vient d'être commencé avec Modibo Keïta. La pomme de terre de Katia est finie, la pomme de terre de Sikasso est finie. La pomme de terre quitte maintenant le Maroc pour venir au Mali, soit les Pays-Bas. En tenant compte des dédouanements et tout ce qui rentre dans le facteur qui rentre dedans, obligatoirement, ça peut se vendre à 300, 400. Et le consommateur qui ne comprend pas, peut-être voit seulement, il y a 4 mois, c'était à ce prix, et peut-être ne voit pas comment cette fluctuation a eu. Ce n'est pas parce que c'est le carême que les commerçants ont augmenté. C'est peut-être la période qui fait que ce prix-là est arrivé à ça.
Alors, malgré ces explications, il y a quand même un fait qui est là. Quand on constate une augmentation, il n'y a jamais eu de réduction après. Je vous propose ces quelques explications du directeur national du commerce et de la concurrence. Je vous propose de mettre les casques pour mieux entendre ces explications. Le directeur national du commerce et de la concurrence, Modibo Keïta, a été joint par notre reporter Modibo Mariko.
Le stock qui se trouve aujourd'hui au niveau national, ça étant des stocks grossis, on a à peu près 73 173 tonnes de riz pour un besoin de consommation de 71 77 tonnes de riz. En ce qui concerne le sucre, nous avons 67 807 tonnes pour un besoin de consommation de 13 892 tonnes. En ce qui concerne le lait en poudre, nous avons 2607 tonnes pour un besoin de consommation de 2293 tonnes. Il faut reconnaître que le prix de la viande a connu une légère augmentation ces derniers temps. La viande avec os était vendue à 2000 francs. Les bouchers le vendent actuellement à 2200. Il faut reconnaître aujourd'hui que pour toutes les denrées alimentaires que nous suivons, hormis la viande et le lait, tous les prix au niveau appliqué aujourd'hui sont inférieurs au prix appliqué l'année passée à la même période. Et nous invitons les opérateurs économiques à continuer dans ce sens pour soulager les dépenses des ménages en ce mois béni de carême.
Alors, on vient de l'entendre, la disponibilité ne fait pas défaut aujourd'hui. Qu'est-ce qui pose problème? Imam Diallo, quel est le degré d'implication des religieux dans la stabilisation des produits, des prix aujourd'hui?
Merci. Je pense que les religieux ont un rôle très important parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, lui-même pour éviter les spéculations. Et vraiment, le prophète se promenait en personne. Il ne se contentait pas d'envoyer ses compagnons. Lui-même s'est déplacé de marché en marché pour sensibiliser les commerçants à ne pas augmenter les prix anarchiquement. Parce que, vous savez, il y a un hadith, c'est pourquoi j'ai rejoint un peu mon frère, quand il dit qu'il est surprenant de voir que dans un pays vraiment, peut-être pas islamique, à forte domination musulmane, qu'il y a toute... quand on écoute souvent les interventions, tu as l'impression que ça n'a pas augmenté. Mais si vous vous rendez au marché, ou bien vous discutez avec les femmes, donc vous trouverez qu'il y a autre chose. Donc, il y a un hadith du prophète, si vraiment nos frères commerçants, j'ai tellement de respect par rapport aux commerçants, mais je les rappelle, le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, il dit ceci, c'est extrêmement important, il dit, quiconque emmagasine de la nourriture, des denrées alimentaires, pendant plus de 40 jours, et que la personne revend après pour avoir beaucoup plus de bénéfices, la personne aura la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et la personne est exclue de ma communauté. Alors que, on le disait tantôt, que le Ramadan est une période pour nous de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de faire en sorte que la population, nos co-religionnaires, nos co-religionnaires puissent avoir la vie facile pendant cette période pour qu'on soit parmi les élites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si moi j'ai un appel aujourd'hui à lancer, je rappelle mes frères et sœurs par rapport à ces hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, c'est pas le moment de chercher à avoir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit chercher pendant ces mois, à nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et à être parmi ses élites. Donc vraiment, j'exhorte les commerçants et les commerçantes vraiment à aller dans ce sens pour vraiment alléger la charge de nos frères et sœurs parce que le pays aussi traverse un moment difficile.
De crise. Alors nous allons observer une courte pause avant de poursuivre avec le débat.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondel.
L'URTEL, c'est l'Union des radios et télévisions libres du Mali.
URTEL, des radios de proximité au service du développement.
URTEL, formation, assistance, accompagnement et facilitation entre radios membres, partenaires et décideurs.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani, à Ségou, sur Radio Foucault, 100.8 MHz. Et la radio Sania, 105 MHz. Radio Tessiri de Nyono, 89 MHz.
Studio Tamani à Mopti sur la radio Kounari de Sévaré, 105.4 MHz. Radio Djamana de Djéné, 91 MHz. Et Radio Dahandé de Douansa, 107.7 MHz.
Studio Tamani à Tombouctou sur la radio Djamana, 91.4 MHz. Alfarouk de Tombouctou, 98 MHz. Issaber de Niafunké, 96.3 MHz.
Merci de rester fidèle à cette émission. Nous parlons ce soir du Ramadan et de ses règles. Nous sommes à la deuxième partie de ce débat. Cette deuxième partie sera consacrée aux règles du Ramadan et à la question de leur vulgarisation. Nos invités, Imam El Hadj Mamadou Diallo, professeur Aguri Agiknan, nutritionniste, et Dantouma Koïta du Syndicat National des Commerçants Détaillants. Alors, Dantouma Koïta, vous êtes membre du Syndicat National des Commerçants Détaillant. Est-ce que vous vous imposez des règles? Est-ce que vous imposez des règles à vos membres en cette période de Ramadan? Des règles de conduite?
Je crois que les règles de conduite sont le comportement de tout un chacun. Les associations, c'est des choses facultatives que les gens peuvent adhérer comme ils veulent, mais c'est l'État qui est l'extrême. Je crois que l'État et les consommateurs. Les consommateurs, aujourd'hui, moi, je peux accuser un peu les consommateurs qui ne sont pas bien organisés. Parce que si les consommateurs sont bien organisés, quand il y a une augmentation, c'est eux qui doivent vraiment interpeller l'État, que l'État s'implique avec nos différents syndicats. Nous, entre nous, vraiment, il y a des gens, chacun a son comportement. Mais moi, je crois que l'augmentation des prix au mois de carême, c'est plutôt, parce que le directeur vient de dire les stocks de l'huile, de sucre, de lait, c'est nos condiments au marché. Bon, les condiments au marché, Avant-hier, il y a ma fille, quand on mangeait, elle a dit, le goyot fait maintenant le triple. Le goyot, ça c'est les marchés, le goyot, je crois, le mot en français.
Les aubergines.
Les aubergines. Mm-hmm. Je crois, nous, nous sommes organisés, mais à un certain niveau. C'est le condiment qui augmente, peut-être, moi je pense que ça peut être des périodes. Parce que nous, on n'a pas de système de stock de condiments chez nous. Quand il y a des fruits frais chez nous, si la période passe seulement, augmente obligatoirement, on est en début d'hivernage. Il trouve que peut-être 3 mois après, 3 mois en avant, il y avait quelque chose qu'on pouvait vendre le kilo à 50 francs. Aujourd'hui, on peut pas vendre à ce prix-là. Moi, je crois qu'il faut que la population comprenne que souvent, ce n'est pas la surenchère, c'est la situation qui fait que certains prix augmentent à certaines périodes. Si la période coïncide avec le carême, les gens pensent que c'est le carême qui a fait que les commerçants ont augmenté ce prix. Moi, je crois que ce pays-là, tout le monde a pitié l'un et l'autre. On est dans un pays pauvre où les gens n'ont pas assez de moyens, mais je pense aussi que les gens s'organisent avec une association de consommateurs forte qui peut faire certaines pressions, que ce soit des syndicats de commerçants, que ce soit l'État, pour vraiment que les prix peuvent être à la portée de tout le monde. Okay. Sinon, alors, on fait de ce qu'on peut souvent pour que les prix là soient stables, pour que tout le monde ait à un prix vraiment selon leurs moyens.
Alors, professeur Akori Agiknan, nous revenons encore vers vous. Ce n'est toujours pas dans votre domaine, mais vous êtes consommateur et vous répondez à ce titre-là. Qu'est-ce que vous dites quand vous entendez ces mots de Dantouma du Syndicat national des commerçants détaillants quand il dit que les consommateurs ne sont pas assez organisés?
Je suis tout à fait d'accord avec lui. Je crois que je suis quelqu'un qui le rappelle très souvent. On vient d'augmenter l'électricité. Je n'ai pas entendu un seul mot d'aucune association de consommateurs. Et on dit que ça prend effet à partir de juillet. Il semblerait que depuis juin, l'augmentation a déjà été consentie.
Il y a peut-être une spécificité dans ce domaine. Les foyers ne sont pas concernés.
Mais si l'électricité dans les zones urbaines, c'est extrêmement important. Il y a beaucoup de ménages. D'ailleurs, l'électricité, c'est un moyen de développement. Il faut qu'on comprenne que les petites entreprises et les petites et moyennes entreprises, la restauration de rue ne peut pas se développer lorsqu'ils n'ont pas l'électricité. Sinon, les conditions de conservation des aliments, c'est pourquoi on peut souvent vendre des aliments. Hier soir, moi, ça fait combien de jours, je n'arrive pas à regarder le journal, les coupures intempestives. Non, moi, je pense qu'effectivement, il a tout à fait raison, c'est aux consommateurs. On a eu une première association à un moment qui a fait fureur, et puis, on n'entend plus parler. L'association, la SCOMA, etc. Je pense que nous, consommateurs, nous devons nous réunir, faire en sorte de faire l'équilibre. La nature a horreur du vide. Ça, c'est n'importe quel gouvernement. Lorsqu'il n'y a pas une pression, effectivement, c'est le laisser aller. Et là, je suis tout à fait d'accord avec lui qu'il faut que les gens se ressaisissent, que les consommateurs vraiment fassent leur travail pour soulager les populations.
Alors ça, c'est la part de la société civile. Imam Diallo, est-ce que vous pensez que les autorités ont un rôle plus important à jouer dans la stabilisation des produits, du prix des produits?
Oui, tout à fait. C'est ce que Dantouma vient de dire tout de suite. Vous savez, dans nos pays, là, il est important que les autorités prennent des décisions, vraiment, qu'il y ait aussi un suivi. Il faut qu'il y ait des suivis. Pour que vraiment les gens ne spéculent pas, parce que on a beau dire que vraiment il y a beaucoup de stocks, mais quand le prix ne baisse pas, donc vraiment ça va pas. Donc je pense que les autorités ont un rôle important à jouer dans ce sens-là. Ils ont des agents qui peuvent envoyer partout pour vérifier les prix. Et une fois qu'il y a augmentation, de voir, parce que souvent, il peut y avoir des augmentations, c'est tout à fait normal. Mais quand même, il ne faut pas que les gens abusent, vraiment. C'est ce qui est déplorable.
Okay. Alors, professeur, vous avez quelque chose à ajouter?
Un petit mot. Effectivement, je pense que le constat que j'ai fait au Mali, c'est que chaque fois qu'il y a une augmentation du prix, ça ne baisse plus jamais. Même si le marché aboutit à la loi de l'offre et de la demande, même lorsque l'offre est assez importante, en principe, la loi du marché, en ce moment, le prix doit baisser. Mais au Mali, une fois qu'un prix est fixé, ça ne dégringole jamais. Au contraire, ça prend régulièrement l'ascenseur.
Pourquoi, Dantouma?
Bon, moi, je ne suis pas d'accord avec le directeur par rapport à cela. Quand je vois qu'aujourd'hui, au Mali, le prix du thé, il y a peut-être 10 ans, pour avoir à faire du thé, il fallait vraiment faire beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, avec 100 francs, on peut acheter.
Avant,
du thé.
C'était 75 francs.
75 francs.
75 francs.
Non, le thé.
Le sucre, c'était à 25 francs et le thé, c'était à 50 francs. Maintenant, c'est à 100 francs.
Non, ça, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Quand le professeur parle, je pense qu'il y a certains produits. Sinon, moi, je suis vendeur des habits. Je sais un prêt-à-porter, il y a 10 ans, un sous-vêtement au Mali, le prix d'un sous-vêtement au Mali et le prix d'un sous-vêtement aujourd'hui. Quand tu vas au marché aujourd'hui pour vraiment habiller, avec 50 000 francs, tu peux habiller toute ta famille. Je crois que c'est un problème, il y avait un problème de marché qu'on donnait à certaines personnes dans le temps, qui a fait que le prix, quand ça a augmenté, parce que c'est quelques jeunes qui envoyaient ces produits-là. Mais aujourd'hui, le marché a été libéralisé, des produits peuvent venir avec tout le monde quand tu es, tu es dans les droits. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une augmentation et puis il peut y avoir une diminution. Le prix du sucre, de lait, comme le directeur vient de dire, les stocks et les prix, moi j'ai les prix avec moi. Je sais, 425 francs le kilo du sucre. Le sucre, on l'a vendu il y a 3 ans de cela à 600, 700 francs. Et aujourd'hui, on peut avoir le kilo du sucre à 425. Ça veut dire que ça a diminué il y a 3 ans.
Mais par exemple, pour les produits locaux, il y a quand même la viande qui prend aujourd'hui, le prix de la viande prend l'ascenseur. Le directeur vient de le dire, il y a 200 francs de plus.
Bon, la viande a vraiment eu une augmentation. Non, ça baisse parce que l'État a fait des implications. Je crois, je viens de voir même un journal chez vous. Le ministre, avec le Premier ministre et le Président, ils ont mis 200 millions à la disposition des bouchers pour vraiment endiguer ce problème-là. Au lieu d'une augmentation, c'est l'État qui va essayer de subventionner et les gens seront obligés de vendre au prix de 2000 francs les kilos. Moi, j'avais cette information, mais je viens d'être confirmé aussi dans le journal que vous aviez ici. Je sais que, comme l'imam Diallo vient de dire, dans toute chose de la vie, il faut l'implication aussi, à un moment donné, de l'État. Sinon, l'homme est avide, l'homme veut avoir de plus de tout le temps. Je crois, si tu vois que l'imam a parlé du temps du prophète, parce que le prophète se promenait dans le marché pour voir, c'était pour contrôler. C'est pas parce que les gens sont religieux, ils veulent faire du bien. Mais souvent, l'homme est avide, l'homme veut avoir toujours de plus. Je crois qu'avec l'association des consommateurs forte, et puis l'État, actuellement, la manne, c'est pas pour flatter, mais actuellement, le ministre du Commerce qui est là, depuis 2 ans, ce qu'il est en train de faire, si cela continuerait, je sais que ça peut vraiment obliger les gens. Sinon, quelqu'un, quand il veut avoir 5 francs, si ça peut avoir 10 francs, il peut être tenté. Mais je crois qu'il faut l'implication de tout le monde. Je sais, nous, on est toujours accusés parce qu'on est des commerçants, mais on est aussi de bons Maliens, de bons musulmans, et on veut faire du bien, mais souvent, on est tenté. Et alors, il faut une pression pour qu'on puisse être bloqué.
Alors, dans votre organisation, est-ce qu'il y a une bonne collaboration? Est-ce que la collaboration que vous avez, les commerçants détaillants ont avec les grossistes, consiste aussi à cette flambée des prix?
Non, la collaboration avec les grossistes est franche aujourd'hui. Il y a un comité des prix dont les détaillants font partie, les grossistes sont dedans, et puis il y a beaucoup de directions de l'administration. Je crois qu'il y a quelques années, il y a 5-6 ans de cela, vraiment cette collaboration est franche. Quand les grossistes importent aujourd'hui, ils donnent à un prix où les détaillants peuvent aussi vendre, avoir les 5 francs, 10 francs pour avoir vraiment comment vivre. Parce que quand tu achètes un sac de sucre, je crois que ça a été expliqué dans le temps, il y a le plastique que tu achètes, il y a le transport, il y a le transport du marché à ta boutique. Il y a certaines choses qui rentrent en jeu. Mais moi, je crois que l'augmentation des prix, ce n'est pas souvent seulement l'huile, le sucre, le lait. Moi, j'ai parlé de quelque chose que les autres n'ont pas parlé. Les prix, les condiments, cela aussi joue beaucoup. Bon, et ils sont organisés aussi en association. Mais je sais quand même que si on s'implique sur ce plan, je sais que le panier de la ménagère, vraiment, il peut avoir des solutions. Okay. Sinon, de notre côté, on est en train de se battre. Mais si on serait ensemble, avec peut-être les journalistes aussi, je sais que l'année prochaine, peut-être, il ne va pas avoir d'augmentation et puis les gens vont avoir les choses selon les moyens qu'ils ont.
Nous vous inviterons volontiers pour venir en débattre. Alors, imam, il y a l'imam Mahmoud Diko, président du Haut Conseil islamique du Mali, qui disait que le fait peut-être que le mois du Ramadan ne se produise pas à la même période tous les ans puisse aussi contribuer à l'augmentation des prix. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à cet aspect?
Vous savez, les théologiens parlent beaucoup de ça. C'est parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les êtres humains qui fait que le mois de carême est lié au mois lunaire. C'est-à-dire, prenons un exemple simple. Cette année, le ramadan vient en été. Généralement, l'été, c'est à partir de juillet. Donc, si c'était sur l'autre calendrier grégorien, si le ramadan vient chaque année en été, Donc, ça fatigue beaucoup les musulmans. Prenons l'exemple de ceux qui sont en Occident aujourd'hui. Il y a quelques jours, moi j'étais aux États-Unis, par exemple à Seattle, et le musulman commence le jeûne à 3 heures du matin. 3 heures du matin, voyez, la prière de Fajr, la semaine dernière, c'était à 3h11 du matin. Donc, il faut observer le ramadan au moins une demi-heure avant l'heure de la prière. Et que pour la prière de Maghrib, ces gens-là prient à 21h11, 21h15. Donc, imaginez le temps que ça fait. Donc, c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu lier ça au calendrier grégorien et que c'est le 9e mois du ramadan qui vient souvent en été, en hiver, pour que les gens... C'est ce que j'ai dit aussi lorsque j'ai causé avec les musulmans, les débutants qui se plaignaient beaucoup du moment. J'ai dit, voilà, vous profiterez quand le ramadan vient en hiver et là, vous commencerez à 7h du matin et à partir de 16h, ça serait la rupture. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala veille pour nous, c'est pourquoi il nous conseille à ceux qui sont malades ou bien à ceux qui n'ont pas en mesure de gêner, de ne pas gêner, parce que l'objectif recherché, ce n'est pas de nous faire mal, mais c'est nous guider pour qu'on aille vers la piété recherchée.
Alors, cette piété recherchée et sa compatibilité avec la maladie, nous allons en débattre dans cette troisième partie, juste après cette courte pause.
Studio Tamani, Urtel, Fondation Hirondelle.
La Fondation Hirondelle est au service du professionnalisme de l'information,
rigueur,
précision,
vérification des faits,
équilibre, pluralisme et bonne gestion.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani à Gao sur la radio Nata 91.7 MHz, la radio Adar Kouima 101.7 MHz et la radio communautaire de Bourem 99.0 MHz.
Studio Tamani à Kidal sur la radio Tisdas 91.1 MHz.
Studio Tamani à Bamako sur la radio Liberté 97.7 MHz, radio Benkan 97.1 MHz et la radio Guintan, la voix des femmes 94.7 MHz.
Nous sommes suivis à 94 km de la ville de Gao grâce à une coquette radio, radio partenaire de Studio Tamani, la radio communautaire de Bourem. Merci donc aux auditeurs de la 7e région. Le troisième volet de ce débat est consacré au rapport entre le ramadan et la santé. Nos invités, Imam Elhadj Mamadou Diallo, le professeur Agkori Ag Iknan, nutritionniste, et Dantou Makoïta du syndicat national des commerçants en détail. Alors, est-il permis pour un malade, quel que soit le degré de gravité de sa maladie, de jeûner pendant le ramadan, professeur Akouri?
Merci. Je pense que l'imam Diallo a trouvé toute la transition tout à l'heure. Je pense qu'en plus des bienfaits du ramadan et du jeûne par rapport à la religion, l'aspect don de soi, l'aspect aussi, et je dis, c'est un côté que les gens oublient très souvent, le fait de penser aux démunis, donc le partage de ce qu'on a, je pense que le jeûne a des vertus dans le domaine de la santé. Lesquels? En général, pour les personnes qui ont un certain surpoids, le fait pratiquement le jeûne, c'est pas pratiquement 15 heures d'observance de jeûne, parce que actuellement en tout cas, pratiquement c'est vers 4 heures du matin, et la rupture c'est vers 19h, c'est à peu près 15 heures de temps. Donc vous voyez, l'organisme a besoin d'énergie pour faire face à ses besoins. Les besoins sont de deux types. Les besoins vitaux, qui nous permettent de respirer, que le cœur fonctionne, transpiration, etc. Ça, c'est le métabolisme basal. À lui seul, il consomme 60 à 70% de l'énergie que nous produisons à travers les aliments que nous consommons. Les 30 à 40%, c'est pour faire les activités de tous les jours. Marché, etc., toutes les activités quotidiennes. Donc, chaque individu a besoin d'une alimentation pour faire face à ses besoins. Donc, si vous faites 15 heures d'observance de jeûne, qu'est-ce qui va se produire? Vous allez consommer vos réserves. Et les réserves, c'est d'abord les graisses. Donc, vous allez brûler les graisses, donc vous allez un peu dépérir. Et en ce moment, si pendant la rupture du jeûne, vous n'avez pas une alimentation qui va vous apporter l'énergie compensatrice de la perte, effectivement, donc, vous allez continuer un tout petit peu à maigrir. Donc, ce qui est important pour celui qui a déjà une surcharge pondérale, donc c'est un élément assez important. Et deuxièmement, même sur le plan désintoxication, etc., pendant cette période. Mais par contre, il faut dire qu'il faut être en bonne santé pour pouvoir jeûner. Ça, c'est important. Et je pense qu'il y a souvent, nous sommes médecins, nous sommes toujours confrontés à certaines personnes, surtout d'un certain âge, qui sont tellement pieux, mais qui veulent coûte que coûte, malgré leur âge, leur état de santé, jeûner. Je crois que l'imam l'a si bien dit, il est important de reprendre tout ça pour dire on jeûne lorsqu'on a les possibilités de jeûner. Je crois que le prophète, l'être suprême, n'a pas dit à l'individu de s'autodétruire. Je pense que chaque fois que vous avez la possibilité, il faut le faire. Ça, c'est important. Donc, vraiment, le jeûne apporte un plus à la santé parce que ça permet d'évacuer d'abord les mauvaises graisses et ensuite, ça remet l'organisme vraiment en forme. Mais il faut pouvoir être dans les conditions de pouvoir jeûner.
Alors, que dit la religion par rapport à ce rapport entre le jeûne et la maladie, la santé?
Vous savez, l'islam tient tellement à la santé de l'être humain que tous ceux qui sont malades sont dispensés. Une fois que vous êtes malade, le verset du Coran qui parle de l'obligation du jeûne, si vous continuez sur le même verset, il est dit « Wa man kana maridan aw ala safar », celui qui est malade ou bien celui qui est en déplacement, même si vous n'êtes pas malade et que vous voyagez et que ça dépasse, comme les ulémas le dit, 150 kilomètres, et là, l'islam vous autorise à ne pas gêner. Donc, je rejoins un peu Akiknan dans ses propos. Vraiment, on voit qu'il y a des personnes âgées qui souhaitent gêner, quel qu'en soit leur état. Donc, l'islam n'approuve pas ça. Vraiment, on les déconseille. Et il faut voir un spécialiste. En ce moment, ce n'est pas l'imam qu'il faut voir, mais il faut voir un médecin. Parce qu'en islam, il est conseillé de voir des spécialistes. Donc, l'islam, l'imam, il est spécialiste des textes islamiques, mais il n'est pas spécialiste de la santé. Donc, le spécialiste de la santé, il faut le consulter et vraiment prendre son avis. Même s'il n'est pas musulman, son avis est important parce que c'est lui le spécialiste. Donc, vraiment, si j'ai un appel à lancer, surtout à nos mamans, généralement, vous savez, quand les mamans alertent, ils ne gênent pas. Quand au jeune âge, ils font, je m'excuse de le dire, beaucoup de périodes sans gêner, ils veulent rattraper. Hein, ça trouve que la maladie est déjà là ou bien la vieillesse. Et donc, parce que les vieilles personnes aussi sont dispensées. Et ceux qui ont une maladie chronique, les diabétiques, vraiment, tous ces gens-là sont dispensés. Donc l'islam donne la solution à eux. Et c'est de donner de la nourriture aux pauvres pour ne pas gêner. Donc l'islam est vraiment clair là-dessus. Tous ceux qui sont malades ou bien qui sont en voyage ne doivent pas gêner.
Alors, vous quittez la peau de commerçant d'Antouma Koueta, du syndicat national des commerçants détaillants. Vous avez face à vous deux spécialistes. Est-ce que vous pensez que les différentes conditions que viennent d'énumérer les deux spécialistes sont assez vulgarisées au sein de la population?
Oui, je crois que ce que le professeur vient de dire, et puis ce que l'imam vient de dire, c'est vulgarisé. Parce qu'il y a des émissions radio, télé, qui expliquent, il y a les médecins qui sortent, il y a les ulémas, les imams qui sortent pour expliquer les conditions, pourquoi on doit gêner. Mais je crois que c'est un entêtement qui est là, de la population, c'est naturel. Moi, je crois que les explications doivent continuer toujours pour que les gens comprennent. Parce qu'on fait quelque chose pour avoir vraiment... C'est Dieu et le prophète qui a dit de le faire. Quand il y a des choses qui doivent t'empêcher, je crois qu'il faut comprendre cela. Nous, notre rôle de commerçant est que les gens aient des choses à tout moment, à bon prix. Mais je crois que le conseil, là aussi, on est dans la population de la société civile. Entre nous, quand on voit des gens qui sont malades, même si on n'est pas des grands intellectuels, on est quand même dans les mosquées, on est avec les imams tout le temps. Nous aussi, on essaie de sensibiliser. On essaie de sensibiliser, d'expliquer aux gens quand tu n'es pas malade ou bien si tu ne fais pas trop confiance à ta santé, d'aller voir un spécialiste pour qu'il te dise si tu dois gêner ou bien tu ne dois pas gêner. Nous, comment on est au marché, on veut que les gens aient tout à leur disposition à bon prix. Mais cette partie-là, ça concerne toute la population. Parce qu'on est dans une population où les gens n'ont pas des niveaux intellectuels, que ce soit religieux ou n'ont pas un certain niveau, ils ne comprennent pas souvent facilement des choses. Il faut que la sensibilisation fasse vraiment beaucoup de tâches. Et vous, les journalistes, à un certain niveau, parce que je crois que vous ne vous occupez pas trop des choses religieuses.
Là, on est en train de le faire.
Il faut vous impliquer aussi pour que nos parents comprennent et les malades comprennent. Ça, c'est l'appel que j'ai à dire sur le professeur et puis l'imam.
Merci beaucoup, Dantouma Kouita, du Syndicat national des commerçants détaillants. Alors, professeur Akouri Agiknan, vous êtes nutritionniste. Dites-nous si aujourd'hui, il y a certaines maladies qui interdisent totalement à une personne de jeûner.
Bien sûr, il y a des maladies. Lorsqu'on est diabétique, on ne peut pas jeûner. Parce que le diabète, quelle que soit la forme, bon, si c'est un diabète de type 2, qu'on appelle diabète gras, là, l'organisme produit l'hormone qui facilite. C'est-à-dire, en réalité, quand on mange, tout ce que nous mangeons, l'organisme les transforme sous forme de glucose et ce glucose va être brûlé pour donner l'énergie qui va nous permettre de faire le mouvement. Et le pancréas, il y a une glande au niveau du pancréas qui va sécréter une hormone qu'on appelle l'insuline qui va faciliter que ce glucose-là puisse rentrer dans le sang pour produire l'énergie dont on a besoin. Mais lorsque ce n'est pas produit, eh bien vous allez avoir le sucre dans le sang, mais qui ne peut pas être consommé. Et donc c'est ça qu'on appelle l'hyperglycémie. Donc vous aurez un taux de sucre assez élevé dans le sang et ça vous risquez de faire un coma diabétique. Donc ceux qui n'ont pas ces cellules qui permettent de faire ce travail, et on les appelle, on dit qu'ils ont un diabète de type 1, c'est-à-dire insulino-dépendant. Ces gens-là, il faut apporter de l'extérieur ce qui va remplacer cette hormone que le pancréas sécrète. Il faut l'apporter par la piqûre pour faciliter que le sucre rentre dans les cellules et fasse. Parce que si tu manges, tu as de pour que ce que tu manges te serve, il faut qu'il soit utilisé. Et là, il y a cette hormone qui va permettre de l'utiliser. Bon, les diabétiques de type 2, qu'on dit diabète de type gras, qui sont obèses, souvent, l'insuline, elle est sécrétée, mais souvent, elle n'est pas de bonne qualité, ou bien la graisse empêche, n'est-ce pas, le glucose de pénétrer dans les cellules. Donc, ces gens, il est conseillé de jeûner, au contraire, en tout cas, nous, on les conseille même en dehors du jeûne, de marcher beaucoup, de faire du sport pour dégraisser. Donc le jeûne, c'est un moyen, n'est-ce pas, de dégraisser. Surtout qu'ils ne font pas de piqûres, c'est juste des comprimés. D'ailleurs, les comprimés qu'on leur donne, c'est pour couper l'appétit. Tous les comprimés du diabète de type 2, c'est des médicaments qui vous empêchent de manger beaucoup, donc d'augmenter encore la teneur du sucre. Donc ces gens, sous contrôle toujours médical, parce que attention, l'autre revers n'est pas faire trop pour tomber dans l'hypoglycémie, qui est encore plus dangereuse que l'hyperglycémie. Parce qu'en ce moment, ça va détruire vos cellules nerveuses qui ne sont jamais reconstituées. Et là, c'est fini. Donc, le diabète, il faut être prudent. L'hypertension aussi. Mais là, quelqu'un d'hypertendu, et surtout qui a une tension très élevée, il est obligé de prendre souvent des médicaments à des heures précises. Parce que les médicaments, ils ont une demi-vie dans le sang. Il y a d'autres, c'est 6 heures de temps. Donc, toutes les 6 heures, il faut prendre. Et si toi, tu dois attendre 15 heures de temps, ça pose un problème. Je pense que ces gens aussi ne peuvent pas jeûner. Et bien sûr, bon, les autres, c'est tout à fait évident. Les malades mentaux, je pense que ça, c'est tout à fait normal. Ceci, je ne crois même pas qu'ils fassent la différence entre... mais il y a d'autres, peut-être qui étaient effectivement qui étaient des imams, etc., ou bien en tout cas des érudits dans le domaine. Souvent, on a vu des cas. Ceci, ils tiennent, quel que soit leur état, vraiment à gêner.
Et là, la grippe.
Il faut faire attention.
Et la grippe.
Quelle grippe?
Parce que notre technicien est grippé, il veut savoir si la grippe...
Non, je pense que lui, il cherche des échappatoires.
Voilà. Donc, il n'y a pas de moyen. Okay. Salim doit gêner. Mm-hmm. Alors, imam, malgré cet entêtement, entre guillemets, des fidèles, est-ce que le jeûne, dans ces conditions-là, est accepté? Non, est valable.
Non, pas du tout. Parce que, vous savez, il y a un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous demander d'observer le jeûne. Mais quand ce même Dieu vous dit, si vous êtes malade, vous êtes dispensé, moi je pense que vous ne devrez pas le faire. L'islam est clair là-dessus. Il y a le verset qui dit « Yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ». Allah veut la facilité pour vous. Il ne veut pas vous créer des problèmes en vous demandant. Et ce n'est pas lié seulement aux gens. Tout acte que l'islam demande à poser est conditionné à la santé de la personne. Si vous, par exemple, même la prière, s'il est demandé aux musulmans de le faire debout, mais si vous avez une maladie qui vous empêche d'être debout, on vous demande de vous asseoir pour le faire. Donc l'islam, c'est la facilité. L'islam n'est pas là pour nous créer des problèmes. Donc Allah veut pour nous la facilité, il ne veut pas la difficulté.
Alors imam, nous sommes avec vous, nous terminons avec vous. Il y a un grand malade aujourd'hui, c'est le Mali. Le Mali qui veut la paix. Un mot pour la paix, pour conclure ce débat.
Vous savez, l'islam même, c'est une religion de la paix. Par exemple, le prophète, quelqu'un est venu le voir, son nom, c'était Al-Harb, en arabe, ça veut dire la guerre. Donc le prophète lui a proposé tout de suite de changer le nom. Il dit que l'islam, c'est une religion de la paix. Les musulmans, quand ils rentrent ici, ils disent « la paix de Dieu soit avec vous tous », les salutations. Et le nom du paradis, c'est « Assalam », la paix. Et l'islam même, c'est la religion de la paix. Donc le prophète a demandé à la personne de changer son nom. Il dit, ah, vraiment, moi, je ne veux pas appeler quelqu'un Harb parce que c'est la guerre, parce que l'islam ne veut pas la guerre. L'islam veut la paix pour tout le monde. C'est pourquoi notre salutation entre nous et les salutations des anges vers nous, et c'est la paix.
Merci beaucoup, imam. Merci à vous, messieurs, d'avoir bien voulu participer à cette émission. Invitation à nos auditeurs de la capitale, l'avant-première de Studio Tamani. Le film, c'est demain jeudi à l'Institut français de Bamako à 18h. L'entrée est libre et gratuite. Un temps sera ménagé pour la rupture du jeûne. Le Studio Tamani, le film, est une fiction façon série TV qui dévoile les coulisses du Studio Tamani. Venez nombreux demain jeudi à l'Institut français de Bamako à 18h. 45 minutes, ce n'est jamais assez pour parler d'un sujet aussi vaste que le Ramadan. Malheureusement, c'est le temps que nous avons eu dans ce débat pour débattre du Ramadan et de certaines recommandations de l'islam en la matière. Les trois volets de ce débat, le Ramadan perd-il son sens? Les règles du Ramadan sont-elles connues de tous? Le Ramadan et la santé. Nos invités qui nous ont bien développé tous ces thèmes, Imam Elhadj Mamadou Diallo, professeur à Akori Agignan, nutritionniste, et Dantouma Koïta du syndicat national des commerçants détaillants. Je suis Famoussa Sidibé, Salim Douara était à la technique, Ousmane Diadié Touré a réalisé cette émission. Nous vous disons à demain pour un autre débat.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani wa Makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiro.
Halud Mouni.
Chenibiri. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.